France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera ce mardi en Italie. Une réunion de crise y est organisée avec les pays voisins pour faire face à la propagation du Covid-19. En Italie, le nombre de contaminations augmente chaque jour face à ce coronavirus. Plus de 200 contaminations ce matin. Une septième personne est morte hier. Un cordon sanitaire est toujours en place autour de 9 villes au moins dans le nord du pays. En France, en revanche, si les alertes à la prudence se multiplient, il n'y a pas de nouveaux cas et plus aucun malade sur le territoire a priori. Les personnes revenant de Lombardie et de Vénétie doivent éviter toute sortie non indispensable. Leurs enfants ne doivent pas être envoyés dans les établissements scolaires. Même règle, dit le ministère de la Santé, pour les retours de Chine et de Corée du Sud. Son avocate annonce qu'il va faire appel. Aux États-Unis, Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Son comportement, toutefois, n'a pas été reconnu comme celui d'un prédateur, ce qui était une circonstance aggravante. L'ancien magnat du cinéma a été placé hier en détention en attendant l'annonce de sa peine au mois de mars prochain. Il risque jusqu'à 29 ans de prison. Une enquête est ouverte en Allemagne pour tentative de meurtre. Hier, une voiture a foncé sur des passants lors d'un défilé de carnaval dans le centre du pays, à Volkmarsen, dans le centre donc de l'Allemagne. Au moins 30 personnes sont blessées selon la police locale. Le conducteur du véhicule, lui, a été arrêté. La piste terroriste, pour le moment, n'est pas privilégiée. Le procès des époux Fillon est suspendu à Paris jusqu'à demain. François et Pénélope Fillon sont poursuivis, je vous le rappelle, pour détournement de fonds et complicité. Les avocats ont demandé un renvoi hier pour la première journée d'audience, un soutien à la grève de la profession contre la réforme des retraites.
Le jeudi 12 mars à 20h à l'auditorium de Radio France, Martina Batic entraîne le chœur de Radio France dans les paysages animés de la musique tchèque. Dvorak, Martinou et Jana Tchek jouent les guides. L'orgue et la harpe apportent leurs couleurs. En seconde partie, Szymanowski nous fait glisser vers la Pologne. Une invitation au voyage. Entrez au cœur du concert. Réservation, maisondelaradio.fr.
Chaque semaine, une grande figure du patrimoine mondial. La Compagnie des œuvres sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Warhol est entré dans la légende avec des bouteilles de cola, des boîtes de soupe et des paquets de lessive, ce qui n'est pas une toute petite performance, il faut l'avouer. À la tête de la Factory, il était certes un artiste d'affaires, mais un artiste avant tout, comme nous allons le voir toute la semaine dans la Compagnie des œuvres.
La Compagnie des œuvres, de lundi à jeudi à 15h et sur franceculture.fr.
6h03 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel à la radio tôt le matin ou quand vous voulez en passant par le podcast. Et tous les mardis, c'est l'actualité des expos. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller au musée Bourdelle, le musée Bourdelle de la ville de Paris, situé à Montparnasse, qui présente pour la première fois dans une exposition d'envergure les œuvres du sculpteur et céramiste danois Niels Jensen Jacobsen, artiste pas du tout connu en France et pourtant une des figures majeures de l'art nouveau et du symbolisme. Le musée présente ses sculptures en plâtre, de bronze et de céramique alors qu'il était à Paris, fin du 19e, début du 20e siècle, des pièces incroyable, représentant d'étranges créatures inspirées de la mythologie nordique et des contes et légendes scandinaves. Pour nous en parler, la directrice du musée, Amélie Simier, co-commissaire de cette exposition, ainsi que Jérôme Godot, le commissaire scientifique, et qui est aussi historien de l'art. Merci d'être venu nous parler de cette exposition, Les Contes étranges de Niels Hansen Jacobsen, un Danois à Paris, 1892-1902.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Amélie Simier, bonjour Jérôme Godot.
Bonjour.
On va commencer à parler de ce sculpteur. Je dois vous avouer que je connaissais pas du tout ce sculpteur, ni son histoire, ni rien. Ça fait partie justement de ces plaisirs que d'aller dans votre musée, c'est-à-dire qu'on découvre aussi quelques grands artistes pas du tout connus, qui est donc Niels Hansen Jacobsen.
Mais moi, je dois vous avouer que Amélie le connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas, en fait. Donc, ça a été l'occasion d'une vraie découverte et d'un travail en commun et d'une, comme vous le disiez, d'une vraie surprise, parce que c'est vraiment un univers fantastique, terrifiant, séduisant, effrayant, enfin, tout ce que l'on aime.
D'autant plus que ça fait référence à toute une littérature qui nous a nourris quand on était enfant et qui continue à nourrir nos imaginaires.
Alors, c'est très étonnant, mais en effet, ce Danois vient passer 10 ans à Paris entre 1892 et 1902.
Avec sa femme peintre.
Et il s'imprègne de ce qu'il voit à Paris, mais il apporte aussi à Paris son propre univers. Un univers de mythes, de légendes et de contes d'Andersen. Ces contes que nous avons lus, vous le disiez, Toufik, que nous avons lus sans nous rendre compte à quel point ils pouvaient être parfois violents, profonds et il va les représenter en 3 dimensions. Et donc, nous montrons la petite sirène, qui n'est pas si anodine qu'elle en a l'air. Nous montrons l'ombre et la mort et la mer, 3 figures sorties tout droit d'Andersen.
Amélie Simier, puisque vous connaissiez l'histoire de ce sculpteur, l'histoire de cet artiste, alors qu'il n'y a même pas de fiche Wikipédia en français pour résumer. Il
faut vraiment... Elle est très bonne, vous savez, elle est très bonne.
Alors, racontez-nous l'histoire. Qui est donc Niels Hansen Jacobsen?
Hansen Jacobsen, c'est un jeune homme issu d'un milieu de fermiers aisés du Jutland. Le Jutland, c'est à l'ouest du Danemark, une province qui, à l'époque, est toute proche de la Prusse de l'époque. Et il est très doué, très vite pour le modelage. Il va se former d'abord à Copenhague, où se forment les sculpteurs, à l'Académie des Beaux-Arts. Et très vite, il éprouve le besoin d'aller éprouver son talent en le mettant en contact de l'Allemagne, l'Italie et puis Paris, qui est l'endroit où, en 1892, finissent par aboutir la plupart des artistes. Il s'installe donc au 65 boulevard Arago, dans ce qui va devenir ce que nous appelons aujourd'hui la Cité Fleurie, un espèce de havre extraordinaire où sont rassemblés des artistes qui viennent du monde entier.
Le bon moment au bon endroit, donc.
Exactement.
Et c'est comme si ce déplacement, finalement, dans l'espace allait lui permettre de s'approcher de quelque chose d'intime et de fondamental. C'est ce que, dans l'invitation au voyage, c'est ce que Baudelaire dit. Tout y parlerait à l'âme en secret sa douce langue natale. Il n'est pas sûr que la langue soit si douce. En tout cas, ce déplacement permet de faire surgir quelque chose de fondamentalement intime, voire violent, et en même temps qui touche vraiment à des archétypes psychiques très très profonds.
Alors ce qu'on apprend dans cette... en voyant d'ailleurs les œuvres de Niels Hansen Jacobsen, c'est qu'il y avait toute une communauté d'artistes venus du Nord qui se réunissaient avec d'autres artistes américains en plein Montparnasse.
Paris a toujours été ouvert aux artistes de tous les du monde entier et en effet ils venaient du monde entier et ils se retrouvaient là dans ces cités d'artistes qui étaient bâties de briques et de brocs avec ce qui restait des pavillons des expositions universelles. Il faut imaginer les cafés, lieux de sociabilité comme aujourd'hui où on parlait toutes les langues. Il faut imaginer aussi tout ce qui devait circuler en matière d'expérimentation technique, d'audace plastique, esthétique. Et nous avons essayé sur les 6 messes de l'exposition de montrer à quel point ce bouillonnement créatif qui nourrit Hansen Jacobsen lorsqu'il est à Paris est né de ses proximités, ses confrontations, ses regards portés les uns avec les autres. Et donc, à côté d'Hansen Jacobsen, vous allez retrouver un autre artiste tout aussi mystérieux pour les Français, qui s'appelle Jens Lund, qui est un peintre danois extraordinaire. Et puis, vous trouverez des noms beaucoup plus connus que sont les voisins d'atelier du boulevard Arago. Alors, c'est Eugène Grasset, c'est Jeannonet, c'est Cariès, Jean Cariès, le grand céramiste. Et ça n'est pas un hasard si Hansen Jacobsen se met à la céramique à Paris et non pas au Danemark.
Mais ce qui est très étonnant, c'est que finalement, il arrive et il se retrouve au cœur d'un couvent artistique qui est un couvent symboliste.
C'est vraiment... Vous voulez dire que c'est par hasard, Jérôme Godot, ou c'est parce qu'il y avait déjà ce laboratoire formel du symbolisme qu'il vient à Paris?
Non, je pense que là, c'est vraiment... Ou alors le hasard n'existe pas, ou l'inconscient est toujours logique. Donc il y a comme ça, si vous voulez, une coïncidence, mais en même temps une révélation. Et vraiment, ça va venir finalement susciter et promouvoir une pente, je dirais, symboliste qui existe profondément dans l'art danois, mais qui va être accentuée et révélée par ce déplacement géographique. Si on veut aller jusqu'au bout du processus, au fond, qu'est-ce que c'est que le symbolisme? C'est toujours un déplacement, parce que dans le symbolisme, vous avez une forme qui est là pour montrer quelque chose qu'on n'arrive pas à voir et pour dire quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. C'est-à-dire que c'est une forme qui en évoque une autre. Donc, c'est une logique du déplacement. C'est une logique du transfert.
Et lui, il vient avec quelle logique de transfert? Avec, bien sûr, sa culture, parce que ce qu'il va représenter, c'est quand même des personnages ambigus, étranges, qui font peur.
Des personnages qui font peur et en même temps des personnages qui plongent dans notre imaginaire, parce que la petite sirène, au fond, elle est l'héritière de toutes les nymphes, de toutes les Néréides. Elle s'inscrit dans un courant, je dirais, plastique et poétique, qui est vieux comme le monde. Ça commence avec la naissance de Vénus. Mais c'est vrai qu'il arrive aussi avec ce bagage d'Andersen, mais ce bagage d'Andersen qui est lu dans toute l'Europe, dont Gauguin était un lecteur assidu. Et je vous rappelle que la première femme de Gauguin était danoise. Donc il y a comme une espèce de logique étrange qui fait que finalement, il se retrouve au bon endroit, à la bonne place, pour faire surgir à la fois ceux qui le travaillent, mais ceux qui travaillent finalement l'ensemble des artistes.
Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Amélie Simier?
Il y a aussi ces figures très singulières qu'on ne retrouve nulle part sur les 6 messes parisiennes, dans les salons. C'est par exemple le troll, ou bien c'est le masque de l'automne. Le troll en particulier.
Le troll qui flaire la chair de chrétien, et le troll qui est cette entité dévoratrice qui est cachée dans les forêts ou dans les rochers pour enlever et dévorer les femmes et les enfants. Donc on se dit bien qu'en même temps, cette oralité dévoratrice, elle doit plonger dans des racines psychiques qui sont nordiques peut-être, mais pas que.
Ces quelques pièces de Niels Hansen Jacobsen, donc exposées au musée Bourdelle jusqu'au 31 mai, ce sont des pièces réalisées lors de son séjour à Paris, les 10 ans qu'il a passé à Paris. Vous êtes allé chercher aussi ce qu'il a fait avant et après son séjour parisien?
Nous avons essayé surtout de travailler sur ce séjour parisien de 10 ans, parce qu'après tout, ce sont les années sans doute les plus spectaculaires, probablement, les plus symptomatiques. Et alors, nous ne nous sommes pas privés de prendre une œuvre comme Le Troll, qui a été conçue dans la longue durée pendant laquelle il était à Paris, mais à un moment où il va passer un été à Copenhague. Et donc, Le Troll est surgi à la fois de Copenhague, parce qu'il est fait techniquement, pratiquement, il est conçu du bout des doigts à Copenhague, mais en même temps, cela s'inscrit dans ce long moment où il est à Paris et où probablement, comme Jérôme le dit, et je le dirai avec mes mots, mais où il est à la fois un étranger là où il est et où du coup, sa singularité propre, son identité propre, sa langue natale semble surgir. C'est une très curieuse chose. Et alors, pour finir sur le troll a été commandé par le mécène de Hansen Jacobsen, qui est ce brasseur encore aujourd'hui très connu puisqu'il a fondé l'empire des bières Carlsberg et qu'il a aussi créé la Nie Carlsberg Glyptothèque. Et il a eu l'audace de mécéner ce jeune artiste danois en lui commandant un troll au choc pour orner sa tombe. Et ça a été une négociation sans fin avec le pasteur local pour qu'il accepte d'avoir un troll.
Quelle matière, justement, lui qui a touché à plusieurs matières?
Il a été conçu d'abord en plâtre et pour pouvoir être exposé dehors, il a été ensuite fondu en bronze.
Alors, est-ce qu'il a été connu de son vivant pendant qu'il était à Paris, Niels Hansen Jacobsen?
Il a exposé au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts extrêmement régulièrement, ce qui n'était pas rien. Et puis, il a été exposé aussi à l'exposition universelle de 1900 dans le pavillon danois en particulier. Donc, alors, il expose régulièrement.
Comment ses pairs accueillaient son travail, Jérôme Godot, vous qui êtes historien de l'art, en plus d'être co-commissaire de cette exposition?
Je crois qu'ils ont été surpris. Ils ont été surpris par la dimension fantastique, mais c'est un peu, Amélie parlait tout à l'heure de Cariès, du sculpteur et céramique Cariès. Nous sommes sûrs, d'abord il était le voisin d'atelier, nous sommes sûrs que Jacobsen a vu les céramiques de Cariès que nous exposons d'ailleurs avec ses grenouilles, ses figures monstrueuses, ses faunes qui ferment les yeux, qui dressent l'oreille. Donc il y a tout ce songe de la raison comme ça qui tourne autour de Jacobsen et que lui-même fait surgir. Et quand il présente son masque en céramique de l'automne à l'exposition universelle, oui, il y a un véritable écho, parce que quand vous êtes face à ça, vous ne savez pas très bien en face de quoi vous êtes. C'est-à-dire que on pense à, c'est de la céramique, mais ça fait penser à de l'organique, ça fait penser à un tronc d'arbre, ça fait penser à des écorces, ça fait penser aussi à des masques japonais que, évidemment, il a vu également. Donc, ce sont des objets étranges et Amélie vous le dira aussi, la céramique telle qu'il la conçoit, on est dans quelque chose de très organique et de très expérimental. Ça s'appelle vase ou coupe, mais je mettrai qui que ce soit au défi de reconnaître des objets utilitaires là-dedans.
Ce grès émaillé, c'est une des choses qui nous a absolument fascinés en découvrant son œuvre au musée de Vaillonne, d'où vient l'essentiel des œuvres de Jacobsen que nous avons empruntées.
Et c'est aussi la ville natale, bien sûr, oui.
Dans le Jutland.
Alors, la ville, la petite ville, pour ne pas dire le village natal.
La petite ville qui était une petite ville industrielle, chose qu'on a peine à imaginer, mais qui avait en tout cas une société artistique suffisamment importante pour pouvoir susciter des talents qui naissaient sur place. Et une des choses tout à fait singulières de Hansen Jacobsen, ce sont ses grès émaillés. Il travaille le grès comme personne à Paris au même moment, alors même qu'il est à côté de ceux qui vont radicalement renouveler le grès artistique, des gens donc comme Jean Carriès en particulier. Il va le traiter d'une manière qui lui est propre, qui est absolument expérimentale. On sent qu'il tourne ses pots, alors on ne sait pas, il a fait brûler, hélas pour les historiens d'art, il a fait brûler ses archives c'est juste prudent. Après sa mort. C'est prudent, mais c'est désespérant pour nous autres.
Pourquoi vous dites que c'est prudent?
Parce que comme ça, on est sûr de rester insaisissable. Vous savez, les historiens de l'art, ils veulent toujours mettre les choses dans les cadres et les définir. Il faut essayer de mettre la main sur quelque chose, mais au fond, les œuvres se dérobent. Alors en plus, quand il n'y a pas d'archives, eh bien, on est renvoyé à leur, comme dit Amélie, à leur singularité, je dirais.
Alors étrangeté,
indéchiffrable. Oui, mais.
Et vous voyez, c'est ça qui est formidable, c'est que il prend à pleine main un matériau qui est un matériau traditionnel, le grès, qui est fait vraiment pour un usage utilitaire, des pots, des cruches. C'est vraiment ça qu'on en fait. Il le transforme, comme toute cette école de céramistes renouvelant ce matériau en France au même moment, il le transforme en des objets qui ont à peine d'usage, mais qui ont une beauté organique qui vient de leur non finito, des concrétions extravagantes, des cloisons de métal qu'il élabore. Alors, ce sont des alliages, jamais les mêmes alliages, parce que c'est un vrai bricoleur. Des alliages de plomb, d'étain, qui du coup sont malléables pour pouvoir suivre les courbes étranges de ces céramiques qu'il a façonnées lui-même. Et puis, il joue des émaux et la magie du feu fait que les émaux ne sont jamais tout à fait les mêmes et qu'on a donc des amas, des blancheurs, des profondeurs bleuâtres. Et oui, on a beaucoup joué de ça dans la scénographie de notre installation, n'est-ce pas?
Et on ne sait pas vraiment si on est au fond des mers, si on est à l'intérieur des viscères, si on a... il y a quelque chose qui est presque parfois gênant, parce que vraiment il y a tout un monde d'associations qui se lèvent. Et on est aussi à peu près certain qu'il a entrevu les céramiques de Gauguin. Gauguin a eu une influence absolument déterminante et l'étrangeté de Gauguin, Gauguin disait lui-même, je cherche toujours le caractère du matériau et le caractère premier de la céramique, c'est le feu, et c'est le feu intérieur, et c'est le feu dévorateur, et c'est aussi le feu des instincts primitifs.
Niels Hansen Jacobsen, cet artiste danois qui est passé donc à Paris, exposé chez vous au musée Bourdelle à Paris, à Montparnasse. Comment avez-vous connu cette histoire, cet artiste, Amélie Simier, vous qui êtes directrice du musée? À quel moment vous avez été mis au courant de ces travaux?
Ça, c'est le délice des rencontres. Alors, d'une part, nous avions vu au musée d'Orsay, au Grand Palais auparavant, en 2000, en 2006, trois œuvres de Hansen Jacobsen, suffisamment frappante pour qu'elle reste dans ma mémoire, et en fait dans la mémoire des amateurs de sculpture de cette époque-là. Et donc, lorsque Teresa Nielsen, qui est la directrice du musée de Vaillonne, nous a approchés en nous disant « J'aimerais tant qu'il y ait un jour une exposition à Paris de cet artiste, parce que c'est là qu'il est devenu lui-même, en vérité », eh bien, on s'est dit qu'on avait quelque chose à raconter en regardant ses œuvres si originales. On s'est dit qu'on avait quelque chose à raconter aussi en matière d'histoire d'atelier. Nous sommes le musée Bourdelle, l'héritier de l'atelier d'artiste d'Antoine Bourdelle. Nous sommes l'ancien atelier d'artiste d'Antoine Bourdelle. Et c'est assez merveilleux de pouvoir raconter des histoires d'ateliers qui sont exactement contemporaines. Les deux hommes sont tout à fait contemporains. Antoine Bourdelle vivait dans ce qui s'appelait à l'époque l'impasse du Maine, aujourd'hui la rue Antoine Bourdelle, dans le même genre de cité d'artistes, avec le même genre de fréquentation internationale d'artistes qui passaient dans tous les sens. Et on s'est dit qu'il y avait là une façon de montrer à la fois un artiste très singulier, mais aussi des amitiés, de l'émulation, des rivalités, et tout un climat
qui est vraiment le climat des années 1890 dans lesquelles les deux hommes travaillent sans forcément se croiser, mais où ils ont des amis communs, des lieux d'exposition communs, des lieux de fréquentation communs. Et quand nous sommes allés au Danemark découvrir l'œuvre dans son ensemble pour choisir ce que nous allions montrer aux Parisiens, on s'est dit que c'était formidable. Et puis c'est Jérôme qui m'a dit « mais élargissons et montrons aussi les artistes qu'il a pu fréquenter, qu'il a regardé, qui l'ont inspiré, qui ont été ses sources. »
C'est un peu comme une petite anthologie du symbolisme, mais c'est une anthologie parfaitement fondée parce qu'en fait, comme le dit Amélie, ce sont des choses qu'il a vues, ce sont des artistes qu'il a croisés, qu'il a côtoyés, ce sont des œuvres qui s'élaborent au même moment, dans le même lieu, à Paris, et qui font partie, au bout du compte, d'un imaginaire collectif.
D'où le titre, d'ailleurs, de l'exposition, « Les contes étranges » de Niels Hansen Jacobsen. C'est un Danois à Paris, 1892-1902. C'est jusqu'au 31 mai au musée Bourdelle. On parle de quelques pièces, justement, de cet artiste, dans un instant, dans le réveil culturel de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Culturel en compagnie de la directrice du musée Bourdelle, Amélie Simier, et du commissaire scientifique et historien de l'art, Jérôme Godeau, pour parler de cette exposition incroyable, Les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen. Si vous venez d'allumer votre radio et si ce nom ne vous dit rien, pas de panique, on ne le connaissait pas. C'est une découverte, hein. C'est la première exposition d'envergure consacrée à ce grand sculpteur. Qu'est-ce qu'on peut voir au musée Bourdelle, par exemple? On peut voir cette pièce absolument magnifique et complètement flippante, on peut le dire, la petite sirène, sa petite sirène à lui.
C'est la petite sirène d'Andersen. Je donnerais les 300 années que j'ai à vivre pour être personne humaine un seul jour et avoir une âme immortelle. L'histoire de la petite sirène, c'est une histoire tout à fait déchirante, hein, puisque pour changer de règne et pour avoir une âme immortelle, elle doit séduire un jeune prince. Pour ça, elle va voir la sorcière des mers, elle absorbe une boisson terrible, elle perd sa voix. À chaque pas que tu feras, c'est comme si tu marchais sur des couteaux tranchants. Et si tu ne gagnes pas l'amour du prince, tu redeviendras écume sur la mer.
Voilà, et vous le dites sans lire, hein, quand même. Bravo, Jérôme Godeau. Mais c'est la première fois qu'on la voit ainsi, la petite sirène, c'est-à-dire qu'elle ne nous regarde pas, elle est complètement accablée, on n'est même pas sûr que...
Je suis pas sûr qu'elle soit tellement accablée, parce qu'elle tient dans ses mains un poisson, et son corps, elle est donc jeune femme jusqu'à la taille, et ensuite sirène, c'est une étrange queue de poisson, c'est un peu comme si c'était un corail, comme si elle était prise dans une concrétion de coraux, ou dans une concrétion marine. Elle est à la fois femme, coquillage, et en même temps elle est prise dans un double mouvement, puisque vous avez vraiment une sorte de spirale, donc c'est comme si elle était à la fois absorbée vers le bas, comme si elle plongeait dans les profondeurs, et en même temps, avec cette chevelure qui se déploie, c'est comme si elle montait vers les cieux. D'ailleurs, dans un premier temps, Andersen voulait intituler son conte « La fille des airs », et ensuite elle est devenue la fille des mers. Et donc c'est ce double mouvement entre plongée, élévation, entre ces profondeurs aquatiques où il y a ces coraux, ces merveilleux, ces poissons, et nous les avons exposés d'ailleurs avec des pattes de verre lumineuses. Donc c'est comme si on était dans le fond des mers. Et en même temps, il y a toute cette blancheur, comme s'il fallait déchirer la chair pour accéder au secret de l'âme.
La petite sirène, cette sculpture en plâtre, qu'est-ce qu'elle vous évoque, Amélie Simier?
Eh bien, je pense qu'il faut aussi évoquer son pendant obscur qui est caché dans la vitrine, la vitrine que surplombe la petite sirène et dans laquelle elle se réfléchit. Et juste à l'arrière, il y a cette sorcière des mers terrifiante qui, elle, est en plomb, un matériau qui est gris mat, qui renforce ce côté très obscur du conte d'Andersen. Et cette sorcière est vautrée, renversée sur un trône qui est fait d'ossements, qui sont les os de tous les, je pense, tous les désespérés, les noyés de la mer. Et elle est tout à fait terrifiante. Et elle est, c'est intéressant, c'est que la petite sirène, ça n'est pas une histoire lisse, comme le dit Jérôme, et qu'il y a cependant très obscur, et qu'il est là aussi en sculpture, plus discret.
Si vous voulez parler d'une autre sculpture de Jacobsen.
L'ombre, encore un conte d'Andersen, et un conte absolument terrible, puisque l'ombre, c'est l'ombre projetée d'un savant et d'un poète qui a la mauvaise idée de congédier son ombre pour qu'elle se glisse dans la maison d'en face et observer ce qui s'y passe. Et puis finalement, l'ombre prend goût à cet affranchissement, elle va devenir tout à fait envahissante et elle va finir par exiger du poète et savant qu'il devienne lui-même l'ombre de son ombre. Et comme il refuse, l'ombre le fait mettre à mort. Donc c'est un conte, c'est vraiment la part obscure et envahissante qui finit par dévorer, c'est « je est un autre ». Et cette ombre se déroule comme une espèce de... C'est entre la pieuvre, le haillon, une espèce de flaque en même temps ondoyante. On est vraiment... C'est la vague de la petite sirène, mais poussée jusqu'à la quintessence de l'art. On pourrait analyser de l'art nouveau.
Plastiquement, on ne connaît rien de semblable à la même époque à Paris et même après. C'est vraiment une œuvre tout à fait étonnante. Il faut venir la voir au musée pour s'en rendre compte. Nous l'avons volontairement mise très bas, sur un socle très bas, pour qu'on puisse la surplomber parce qu'elle semble s'échapper des pieds de son maître, hein, et elle s'étend en grande nappe, en grande spirale, tout à fait effrayante. Elle brandit d'une main le sablier qui décompte le temps. Oui. Elle tend un doigt décharné. Elle a une tête de mort tout à fait effrayante. Rien ne ressemble à ça dans l'art.
Tout en étant rampante.
De cette époque-là. Oui,
elle rampe. Et elle rampe. C'est incroyable. Alors, ce que vous dites dans le catalogue qui accompagne cette exposition, vous dites que c'est vraiment la conjonction exemplaire du symbolisme et de l'art nouveau. Pour parler de Niels Hansen Jacobsen, Jérôme Godot.
Peut-être que l'art nouveau, c'est la pointe ultime du symbolisme. Puisque le symbolisme, on disait tout à l'heure, c'est un déplacement. C'est-à-dire, quelque chose évoque toujours quelque chose d'autre. Et la forme idéale pour cela, c'est l'arabesque, c'est la cour. Puisque dans une arabesque, vous n'avez ni début ni fin. Donc c'est toujours un déplacement. Et l'art nouveau va pousser jusqu'au vertige, je veux dire jusqu'au délire, ce perpétuel mouvement de renversement de la courbe qui peut être aussi bien une efflorescence, une montée, un épanouissement, au contraire, un engloutissement, une pieuvre, une dévoration. Et comme par hasard, ça tourne toujours autour de figures féminines. C'est-à-dire que je crois que cette exposition est aussi une méditation sur l'ambivalence profonde du féminin, en tout cas tel qu'il est fantasmé par le masculin.
Du coup, le dernier mot vous revient, Amélie Simier.
Simplement de vous dire de venir...
C'est jusqu'au 31 mai.
Oui, venez faire cette expérience tout à fait étrange de rencontrer un artiste comme vous n'en avez pas vu d'autres. Hein. Je vous promets que vous serez très surpris.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci Amélie Simier, merci Jérôme Godot d'être passé ce matin.
C'est nous qui vous remercions beaucoup
pour nous parler de cette exposition à ne pas rater. C'est au musée Bourdelle à Montparnasse à Paris jusqu'au 31 mai. Les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen. Le réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la technique Alain Joubert. Bonne matinée, on se retrouve demain à la même heure.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le forum Vertigo au Centre Pompidou. Autour d'artistes et de scientifiques, Vertigo fait un zoom sur le présent vertigineux de la technologie, de la création et sur les nouveaux processus de production. Deux jours de rencontres internationales sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la création artistique, ses fondements et ses enjeux éthiques et culturels. Vertigo, les 26 et 27 février, imaginé par l'IRCAM, une manifestation de mutation-création, rendez-vous art et innovation du Centre Pompidou à Paris. Un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'épidémie liée au coronavirus s'accélère à travers le globe. Les bilans augmentent de la Corée du Sud jusqu'à l'Iran et les pays voisins se barricadent, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, nous irons en Allemagne où, après l'arrestation d'un homme qui a renversé des dizaines de personnes en voiture dans le centre du pays, ses motivations ne sont pas encore connues. Il a blessé 30 passants. Marine Le Pen est attendue au Salon de l'Agriculture ce mardi dans l'espoir d'y convaincre de futurs électeurs. Analyse dans un instant. Et puis nous avons rencontré Asia Bibi. La chrétienne pakistanaise était accusée de blasphème dans son pays. Elle demande l'asile en France. Il n'y avait hier soir en France aucune personne atteinte du Covid-19, le nouveau coronavirus venu de Chine. Concernant les mesures préventives, toutefois, le ministre de la Santé, Olivier Véran, recommande le port du masque uniquement pour les personnes ayant séjourné en Chine, à Singapour, en Corée du Sud, en Italie avec la Lombardie et la Vénétie, car c'est là que le nombre de contaminations est le plus important. En Italie, par exemple, 7 personnes sont mortes, 220 au moins sont contaminées. Mais il y en a encore plus en Iran, deuxième foyer d'infection après la Chine, deuxième foyer d'infection le plus préoccupant en tout cas. Le virus y a tué 12 personnes en quelques jours. Les pays limitrophes ont donc restreint leurs échanges avec la République islamique. Christian Chesneau.
Les autorités iraniennes ont promis la transparence devant la multiplication des cas d'infection. Mais les pays voisins de la République islamique ne sont pas rassurés. Ils sont en état d'alerte sanitaire après l'apparition de plusieurs cas de contamination en Irak, au Koweït, à Bahreïn, dans le Sultanat d'Oman et dans les Émirats arabes unis. Certaines de ces personnes infectées venaient des villes de Qom et de Mashhad, au lieu des pèlerinages chiites en Iran. Résultat, Oman a décidé la suspension de toutes ses liaisons aériennes avec la République islamique. L'Irak a fermé sa frontière terrestre avec son voisin ainsi que celle avec le Koweït. Le Qatar a fait savoir qu'il soumettait désormais les passagers venant d'Iran et de Corée du Sud à une quarantaine de 14 jours. Aux Émirats arabes unis, important pôle de transit aérien, les autorités ont appelé leurs ressortissants à s'abstenir de voyager jusqu'à nouvel ordre en Iran et en Thaïlande, foyer important de contamination en Asie après la Chine. Une crise sanitaire qui a aussi plongé les marchés financiers des monarchies du Golfe dans le rouge.
Les bourses mondiales d'ailleurs plongent ensemble de Wall Street à Tokyo en passant par Milan. Car si la contamination ralentit en Chine, l'Organisation mondiale de la santé évoquait hier un risque de pandémie. La Chine encore, où un tribunal a condamné hier le libreur suédois dissident Guy Menai à 10 ans de prison. Auteur de livres très critiques envers les dirigeants communistes chinois, ce Suédois avait été arrêté par des agents chinois en début de l'année 2018. Il se trouvait alors en présence de diplomates suédois. Il s'agit de la première reconnaissance de culpabilité dans une affaire post-MeToo. Hier, le magnat d'Hollywood, Harvey Weinstein, a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Un verdict applaudi par plusieurs de ses accusatrices. Harvey Weinstein a été immédiatement écroué en attendant de connaître sa peine. En mars prochain, il risque jusqu'à 29 ans de prison. Ce verdict change le cours de l'histoire dans la lutte contre les violences sexuelles. Voilà ce qu'affirmait hier le procureur de Manhattan. L'avocate d'Harvey Weinstein, elle, a annoncé que son client allait faire appel. L'Allemagne est de nouveau sous le choc. 5 jours après l'attentat raciste d'Hanau, c'est dans la même région de la Hesse qu'une voiture a foncé hier sur une foule. Les passants venaient assister au carnaval de la petite ville de Volkmarsen. 30 passants ont été blessés. Le conducteur, lui, a été arrêté. Mais ses motivations ne sont toujours pas claires, Ludovic Piétenu.
L'enquête est ouverte pour homicide. La police parle d'un geste délibéré mais ne précise toujours pas les raisons. Au volant de cette Mercedes break argentée, un Allemand de 29 ans prénommé Maurice, originaire de cette petite ville de 7000 habitants, arrêté immédiatement et transporté à l'hôpital avec de graves blessures à la tête. Il n'est pas encore en état pour être interrogé et présenté à un juge d'instruction. Les faits se sont produits aux environs de 14h45. Il a franchi un cordon de sécurité installé le long du défilé et à grande vitesse a continué de rouler 30 mètres après avoir percuté les premiers spectateurs du carnaval. Pour s'arrêter à cheval sur un trottoir. Les gens volaient dans les airs comme du papier, raconte un témoin. Certains médias allemands rapportent qu'il était très alcoolisé, mais ça n'est pas confirmé par les enquêteurs. En revanche, il est connu de la police pour des voies de fait, des insultes notamment. Une voisine de cet homme raconte au tabloïd allemand Bild : je l'ai vu partir en voiture tout à l'heure, il avait l'air d'être drogué et a dit : je serai bientôt dans le journal. Depuis, une deuxième personne a été arrêtée. Sans que l'on sache son degré d'implication dans cette affaire, cet individu aurait filmé la scène.
C'était Ludovic Piétenu en Allemagne pour France Culture. Après Emmanuel Macron et Édouard Philippe, le défilé des politiques se poursuit au Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Marine Le Pen y est attendue aujourd'hui. La chef de file du Rassemblement National avait annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2022 le mois dernier. Elle semble déjà en campagne et elle va donc s'adresser à un électorat de plus en plus tenté par le vote protestataire, Stéphane Robert.
Les agriculteurs sont longtemps restés réfractaires au discours du Front National. Mais depuis un peu plus de 15 ans, le FN grignote des parts de marché dans cet électorat. Et à la dernière présidentielle, 30% d'entre eux, selon une enquête de l'IFOP, auraient glissé dans l'urne un bulletin Marine Le Pen. Avant l'an 2000, le vote du monde agricole en faveur du FN ne dépassait pas les 10%. La présidentielle de 2002 marque une rupture. 20% des agriculteurs votent Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine obtient le même score en 2012. On enregistre un reflux en 2007. Nicolas Sarkozy ramène en grande partie cet électorat dans le giron de la droite républicaine. Mais le phénomène est loin de concerner les seuls agriculteurs. Le FN recule partout de façon globale. 2007 constitue donc une exception. Pendant plusieurs dizaines d'années, la forte influence de l'Église dans les campagnes et l'acceptation d'un modèle de cogestion de l'agriculture française par la FNSEA et par les gaullistes ont conduit le monde agricole à voter en grande majorité pour la droite républicaine. La politique européenne en leur faveur à travers la PAC, la politique agricole commune, a aussi durablement ancré le vote des agriculteurs à droite. Mais aujourd'hui, le nombre d'exploitations décline, on en compte moins de 500 000. La profession se paupérise et le vote protestataire progresse dans cet électorat. La réduction des budgets européens prévus dans les années à venir et la montée des préoccupations environnementalistes dans l'opinion pourraient désespérer et marginaliser un peu plus encore cette population, ce qui pour Marine Le Pen offre de potentielles marges de progression.
Le premier article de la réforme des retraites a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Après 8 jours de débat et l'étude de 2000 amendements, l'ombre du 49-3 plane toujours sur cette réforme alors qu'il reste encore 65 articles à examiner. Renault se constitue partie civile dans l'enquête judiciaire en France contre Carlos Ghosn, l'ancien patron du constructeur automobile. Et Carlos Ghosn est soupçonné d'abus de biens sociaux, soupçonné notamment d'avoir organisé 2 soirées privées au château de Versailles en échange d'une convention de mécénat signée entre Renault et l'établissement gestionnaire du château. Notons aussi cette visite à Paris. Asia Bibi, chrétienne pakistanaise, emprisonnée pendant 8 ans pour avoir simplement bu un verre d'eau. Elle était accusée de blasphème par les intégristes religieux dans son pays. Finalement innocentée, elle vit aujourd'hui au Canada. Elle raconte son histoire dans un livre, Enfin libre, aux éditions du Rocher. Livre qu'elle a écrit avec Anne-Isabelle Tollet, une journaliste française, Nathanaël Charbonnier.
Elles ont combattu contre la mort ensemble, elles sont maintenant unies pour la vie. D'ailleurs, dès qu'Asia Bibi prend la parole, c'est pour pleurer d'amour pour son amie journaliste qui l'a toujours soutenue.
Et regardez la sœur que j'ai, le courage qu'elle a. C'est ma sœur.
Une sœur de vie pour une histoire folle. Nous sommes le 14 juin 2009. Asia Bibi travaille dans les champs. Elle a soif et s'approche d'un puits pour se désaltérer.
Tout ça pour un verre d'eau.
Mais voilà, pour les intégristes religieux musulmans, boire directement dans un puits quand on est chrétienne, cela ne se fait pas. Vous ajoutez à cela un peu de jalousie. Et c'est ainsi qu'Asia Bibi va se retrouver accusée d'avoir insulté le prophète.
Alors, j'ai été accusée que j'avais blasphémé contre la personne du prophète et que j'étais en train de détourner les jeunes filles du droit chemin.
La suite, c'est 10 ans de prison. 10 ans de procédure, de condamnation à mort et une attitude toujours la même, celle de la foi et du pardon chrétien.
Moi, je l'aurais tous pardonné.
Un pardon qui n'est pas réciproque puisqu'Asia Bibi reste toutefois en danger sous la menace de mort des islamistes.
Oui,
j'ai besoin d'un dispositif de sécurité parce que je reçoit encore des menaces.
Et profitant de son passage en France, la Pakistanaise a décidé de demander l'asile politique à notre pays.
Asia Bibi sera d'ailleurs reçue ce vendredi par le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Élysée. La pluie gagne du terrain ce mardi, partant du nord-ouest du pays pour rejoindre l'Aquitaine jusqu'au Grand Est. Le soleil brillera sur un quart sud-est, malgré quelques nuages par endroits, avant l'arrivée de Giboulée cet après-midi. Ce matin, il fait 7 degrés à Lyon, 8 à Besançon et à Lille, 10 degrés à Rennes et à Paris, 11 degrés à Bordeaux, 14 degrés dans la matinée à Toulon. Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées avec vous, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, ce matin, vous avez fait une découverte, la découverte du rôle central joué par la femme dans l'évolution humaine.
Oui, bon, vous allez voir, il y a quelques détails édifiants. Et c'est Pascal Pic qui fait le point dans un livre paru chez Flammarion sous le titre « Sapiens face à Sapiens ». Il en parle dans les pages idées de l'Obs, notamment au sujet de la transformation des corps due à un ensemble de facteurs biologiques, physiologiques, cognitifs, sociaux et bien sûr alimentaires. Une évolution qui se déploie sur tous ses fronts avec Homo erectus, il y a environ 1,8 million d'années. Son allure athlétique, le volume de son cerveau, un organe très énergivore qui augmente, accroissent encore ses capacités d'adaptation. C'est en particulier la maîtrise du feu et la cuisson des aliments qui, en soulageant la mastication et la digestion, ont permis de bien meilleurs apports énergétiques. Or, la cuisson joue aussi un rôle important dans la cognition et les relations sociales. On ne peut pas pour autant attribuer aux seules femmes cet aspect de l'évolution, car rien ne prouve que la division des tâches ait été liée au genre, les hommes à la chasse, les femmes au fourneau. Le paléoanthropologue estime qu'il est plus plausible que les travaux aient été répartis par classe d'âge. Et les outils, par exemple, n'étaient pas l'apanage des hommes, ne serait-ce que parce qu'ils servaient surtout à la préparation des végétaux. S'il est vrai, comme l'écrit le psychiatre et éthologue Rolf Scheppi, que la femme est le propre de l'homme, au sens de genre humain, au sens aussi de son rôle crucial et longtemps ignoré dans l'évolution, c'est également en raison des transformations de son corps. C'est de la métamorphose féminine qu'est née l'humanité, résume Pascal Pic. Vu de dos, rien ne distingue en effet un jeune mâle chimpanzé d'une femelle, tandis qu'à l'adolescence, le corps des jeunes filles prend une forme caractéristique de violoncelle avec des hanches et une poitrine développées. Autre singularité, les femmes sont sexuellement actives en permanence, elles ne ressentent pas l'œstrus, la période de fertilité. Une innovation biologique qui n'est pas restée sans conséquences sociales, les groupes se structurant toujours autour de la sexualité. Alors, d'où est venu le règne de la domination masculine? Le mensuel Books publie un dossier sur la masculinité toxique, la testostérone. On a longtemps cru qu'elle était la base chimique de la différence des genres, abusivement considérée comme une hormone sexuelle masculine, induisant l'agressivité, stimulant la libido. Comme le soulignent Rebecca Jordan-Young et Katrina Karkazis, c'est aussi l'hormone stéroïdienne biologiquement active la plus abondante dans organisme féminin et elle joue un rôle essentiel dans le développement et le bien-être de la femme. Elle facilite l'ovulation et n'est pas seulement une hormone sexuelle. Chez l'homme comme chez la femme, ses récepteurs sont présents dans à peu près tous les tissus. Elle favorise la masse maigre et la santé osseuse, stimule les fonctions cognitives et intervient sur l'humeur. Et s'il est vrai que l'activité sexuelle ou le désir stimule la production de testostérone, l'exercice physique, les compliments sont supérieurs et bien d'autres choses aussi. Nature ou culture, un peu des deux, selon Olivier Postel-Vinet qui évoque les rapports, l'apport des travaux sur l'évolution de l'espèce humaine et notamment ceux du primatologue Richard Wrangham. Le professeur d'anthropologie biologique à Harvard souligne un fait méconnu mais troublant. Au cours des 200 000 dernières années, on observe une réduction progressive des caractères anatomiques crâniaux, associée à l'agression. Les spécialistes parlent aussi de féminisation crânio-faciale. C'est donc sous cet angle des rétroactions entre nature et culture, entre la biologie et l'éducation, conclut le directeur de Books, que l'on peut utilement réfléchir aux moyens de freiner la propension à l'agressivité d'une bonne part des garçons et des hommes et de contrecarrer les effets pervers de la domination masculine. Pour Laura Mulvey, ça consiste notamment à déconstruire la machine à fantasmes du cinéma qui associe le spectacle du corps féminin à l'écran, à la présence implicite d'un spectateur masculin. Giovanna Zapperi a lu son livre « Fétichisme et curiosité » pour le site « La vie des idées ». La déconstruction consiste en l'occurrence à introduire le regard et le désir féminin, la curiosité, dans l'entreprise fétichiste de la représentation de la femme au cinéma. Elle évoque le chapitre consacré à la boîte de Pandore dont le mythe croise l'image d'un féminin fabriqué de toutes pièces avec le récit de la curiosité féminine représentée comme transgressive, puisque celle-ci renvoie aussi à l'énigme de la féminité. Seul un désir de savoir féministe est en mesure de déchiffrer et de rendre opératoire la curiosité de Pandore. À l'heure où les phénomènes d'emprise et de domination masculine sont dénoncés dans les milieux du cinéma, ce déplacement du regard apparaît salutaire. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour à tous et à toutes.
Aujourd'hui, Donald Trump au Taj Mahal, alors que New Delhi est en flammes.
Oui, pendant que les médias indiens étaient rivés sur les embrassades, les hugs entre le président américain et son hôte Narendra Modi, ou sur Donald et Melania Trump au Taj Mahal, au soleil couchant, d'autres images nous parviennent depuis hier, notamment des réseaux sociaux, depuis la capitale Delhi, où des affrontements semblent d'une grande violence ont eu lieu visant des opposants à la loi de citoyenneté indienne. Ce texte qui prévoit de régulariser les ressortissants de pays voisins arrivés en Inde il y a au moins 5 ans à condition qu'ils ne soient pas musulmans. De ces manifestations il n'a pas été question entre le président américain et le premier ministre nationaliste indien qui ont des affaires à mener, des intérêts conjoints à défendre mais aussi des intérêts propres. Bonjour Ingrid Terwatt.
Bonjour Julie
Gacon. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Inde. Alors si on s'en tient aux réseaux sociaux comme d'habitude, alors entre ceux qui disent qu'un pogrom est en train de se passer ou un début de génocide contre les musulmans de New Delhi et ceux qui affirment que les musulmans sont en train de brûler une à une les maisons hindoues de certains quartiers de la capitale indienne, on ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer en fait à Delhi. Qu'est-ce que vous savez, vous ?
Vous avez raison, il faut se méfier des réseaux sociaux où s'opposent les avis les plus extrêmes et où il y a beaucoup de faux comptes aussi. Alors, il faut suivre des journalistes indiens indépendants qui travaillent en Inde, qui sont sur place, qui continuent à travailler dans leur rédaction ou en tant que pigiste ou en tant que photojournaliste dans les conditions les plus difficiles parce qu'ils font leur travail, ils sont soumis à la censure, aux pressions et eux racontent. Eux et elles. Il y a aussi pas mal de femmes. Et on a vu passer des images qui sont assez effrayantes de musulmans qui ont été tabassés dans une violence, un déchaînement de violence extrême dans certains quartiers du nord de la capitale. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont inquiets, proposent de l'aide. Donc si vous devez aller à Delhi, appelez-moi. Dans quel quartier êtes-vous, etc. Il faut comprendre les affrontements de cette nuit dont on ne sait pas encore... grand chose. Oui. Il faut les comprendre, pas du tout comme un épiphénomène, mais...
Une séquence.
Exactement. Ils s'inscrivent dans une séquence là qui dure depuis plus de 6 mois, depuis la réélection de Narendra Modi. Et plus généralement, ils s'inscrivent dans une idéologie, celle de l'Hindutva, que Narendra Modi défend. Alors, il a été réélu au mois de mai, et depuis mai, se multiplient les mesures anti-musulmans. Et ces dernières violences sont la conséquence de cette prise de pouvoir des extrémistes hindous et la façon dont ils imposent leur vision de l'Inde comme n'étant plus un pays laïque, plus un pays où les différentes communautés ont le droit ou la possibilité de coexister, mais comme un pays hindou.
Entre autres mesures, alors il y a ce texte, cette loi sur l'amendement de la citoyenneté qui s'ajoute à plusieurs décisions récentes qui de fait mettent à l'écart cette minorité musulmane qui représente quand même 200 millions de personnes, c'est ça d'après les ONG, des villes renommées quand la consonance est musulmane. Iran, des manuels scolaires modifiés pour accorder une moindre importance à la contribution des musulmans dans le pays, l'autorisation d'un temple hindou sur un site disputé avec les musulmans, et puis 2 millions de musulmans qui vont être, à moins qu'ils le soient déjà, déchus de leur nationalité en Assam, dans le nord-est de l'Inde, donc près du Bangladesh. Est-ce que aujourd'hui il n'y a qu'à Delhi notamment que continue les manifestations contre ces mesures?
Non, les manifestations, elles ont eu lieu un peu partout.
Mais en ce moment.
Et en ce moment, il y en a un peu partout. En fait, il y a pas mal d'initiatives, que ça soit dans les universités qui ont été les fers de lance du mouvement de contestation, comme souvent dans les démocraties, dans les pays, ça se passe sur les campus et du nord au sud de l'Inde. C'était vraiment partout. Et là, on parle de Delhi parce que c'est la capitale, bien sûr, parce que le mouvement continue à Delhi et autour de l'université, mais aussi autour d'un autre quartier qui s'appelle Shaheen Bagh, où des femmes musulmanes, elles, font des sit-ins, protestent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles protestent la constitution à la main, le drapeau national à la main, au nom de la constitution, au nom du pays, au nom des valeurs que l'Inde s'est données au moment d'accéder à l'indépendance.
Notamment, le caractère séculier de l'Inde qui est inscrit dans la Constitution, et pour autant, il n'y a pas une sorte de cour constitutionnelle qui peut garantir que cette sécularité, nous on dirait laïcité,
la laïcité
en
français,
serait garantie, préservée.
La Cour suprême pourrait garantir la Constitution, pourrait garantir la conformité de différentes mesures avec la Constitution. Il faut qu'elle soit saisie, la Cour suprême. Et effectivement, tout ça est en cours. Mais on a un pouvoir autoritaire en Inde, en place en ce moment, un pouvoir autoritaire, extrémiste, qui défend des idées extrémistes, mais qui a été élu, et élu triomphalement à deux reprises. Donc on est dans cette situation un peu de blocage et de bras de fer entre la rue, d'une part, et un pouvoir hyper violent qui déchaîne la police et l'armée dans certaines régions contre la population.
Donc ce qui se passe depuis hier soir, ce qui se passe depuis en fait des jours et même des mois n'est donc pas à mettre en lien avec la visite de Donald Trump en ce moment en Inde, bien qu'il soit arrivé hier soir à Delhi où il a dîné. Il avait été reçu dans l'état du Gujarat. Ouais. Voilà, c'est l'état de Narendra Modi, c'est là où il est né, où il a gouverné pendant 13 ans.
C'est ça.
Est-ce que vous y voyez l'avenir? Et nécessairement, il n'a pas été question de ces manifestations, forcément. Mais Modi, est-ce qu'il peut se sentir affaibli par ces manifestations? Ou est-ce qu'il est dans une sorte de toute-puissance, comme il l'a démontré hier dans ce stade de cricket, avec 100 000 personnes et le président américain?
Ça fait beaucoup de questions. Alors, ça n'a pas de lien immédiat, mais en même temps, ça en a un, évidemment. Parce que Narendra Modi n'est pas affaibli sur la scène internationale. D'ailleurs, peu de gens s'émeuvent de la situation en Inde, peu de médias étrangers. On en parle très peu. On a parlé du Cachemire, de la main basse du gouvernement sur le Cachemire cet été. Beaucoup de gens s'en sont émus, beaucoup de médias, ici même, à cette antenne, on en a parlé. Et puis après, c'était au mois d'août, après il y a eu la rentrée, après il y a eu d'autres choses, d'autres séquences politiques, et on a parlé d'autres choses. Alors que la situation au Cachemire ne s'est pas arrangée. Donc, face à cette indifférence internationale, qui est aussi due au fait que la plupart des gouvernements occidentaux, et je mets la France dedans, ont besoin de l'Inde comme débouché commercial, comme partenaire commercial, donc il y a des intérêts, donc il y a une indifférence internationale. Donc Modi n'est pas vraiment menacé. Pour autant, ça lui est très agréable de redorer son image en invitant Trump, en se hissant sur la scène internationale comme un grand leader. C'est pas un hasard s'il reçoit Trump. Il avait reçu lors de la fête nationale, il y a à peu près un mois, Bolsonaro. Donc on est dans une espèce d'international des autocrates, à Bolsonaro, Trump, c'est quelque chose d'assez sordide. Et Modi avait été reçu triomphalement aux États-Unis. Il a rempli des stades en Angleterre, il a rempli des stades aux États-Unis. Il a été reçu au Texas,
à Houston,
devant 50 000 personnes, dans une espèce de fête qui s'appelait Howdy Modi. Et là, il rend l'appareil à Trump en remplissant le plus grand stade de cricket du monde. Un stade de cricket, pour vous donner une idée, c'est à peu près la taille d'un stade de baseball, c'est énorme, rempli donc avec 110 000 personnes. Le titre, c'était Namaste Modi. Bonjour, Namaste Trump, pardon. Bonjour Trump. Donc c'est une façon de faire de la politique d'influence, en grande partie, Et puis, de redorer son blason ou de s'assurer une espèce de grandeur pour Modi d'une part, et pour Trump aussi de courtiser un électorat d'origine indienne aux États-Unis dans son année électorale.
Vous et Ingrid Terwatt, vous travaillez beaucoup sur la diaspora indienne et notamment nationaliste, les réseaux d'influence des nationalistes indiens et hindous dans le monde. Oui, que représente aujourd'hui l'électorat indo-américain aux États-Unis et est-ce que ça peut être vraiment un enjeu pour Trump dans une année électorale?
Alors, ça, c'est un des bénéfices que pourrait retirer Trump de sa visite au Gujarat. C'est pas pour ça qu'il vient en Inde. Mais ça peut être un effet positif. La diaspora indienne aux États-Unis, c'est 4,5 millions de personnes. Et un membre de la diaspora sur trois dans le monde est d'origine gujarati. Donc, c'est important d'aller courtiser cet électorat qui a voté à plus de 80% lors des dernières élections présidentielles américaines pour le camp démocrate. Donc, ça pourrait être une réserve de voix. Ça reste marginal, c'est pas eux qui vont faire basculer l'élection présidentielle américaine. Mais si, au passage, Trump peut
grappiller
quelques voix, quelques sympathies de ce côté-là, c'est toujours bon à prendre.
Et ce réseau des Overseas Friends of BJP, qui a un lien avec l'organisation des volontaires nationaux, une milice suprémaciste hindoue, c'est aussi vraiment votre sujet de recherche. Qu'est-ce que ça représente aux États-Unis?
Alors, tout ça, c'est un peu compliqué à comprendre, parce que vous avez parlé de l'OBJP, et puis de l'association des volontaires nationaux. Alors, je vais juste rappeler. Alors, grosso modo, il y a une milice qui s'appelle Rashtriya Swayamsevak Sangh, l'association des volontaires nationaux, fondée en 1925 en Inde, et dont émane le parti actuellement au pouvoir, le BJP. Cette milice, elle a des branches partout dans le monde. Et le BJP lui-même, le parti de Narendra Modi, a des antennes à l'étranger, qui s'appellent OBJP, OFBJP, Overseas Friends of the BJP. Et eux sont extrêmement bien implantés dans la diaspora, ils ont des réseaux diasporiques depuis une quarantaine d'années, au moins une quarantaine d'années.
Et donc aux États-Unis ?
Et aux États-Unis, ils sont très présents.
Poussé à cette visite, vous pensez ?
Bien sûr, il y a un vrai lobby organisé en tant que lobby. Aux États-Unis, il y a un lobby indien-américain de la diaspora, et il y a un lobby par ailleurs pro-BJP et pro-Modi aux États-Unis, avec un système de lobbying assez transparent, assez ouvert. Et oui, ils poussent.
Merci beaucoup Ingrid Terwatt d'avoir été avec nous ce matin. J'ajoute que Florian Delorme consacrera demain mercredi un épisode de Culture Monde aux nationalistes hindous, l'hindouisation à marche forcée dans le cadre de sa série Foi politique, pouvoir religieux, donc demain à 11h et en podcast bien sûr. Merci beaucoup Ingrid Terwatt et bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum L'année vue par les savoirs sur le thème 2020, la société face au conflit. Le goût du clash a-t-il remplacé le débat public? Peut-on faire une philosophie du conflit? La lutte des classes est-elle toujours d'actualité? 4 débats et un grand entretien portés par les producteurs de France Culture. En partenariat avec La Croix et le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris, samedi 29 février dès 10h dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Réservation obligatoire, maisondelaradio.fr.
France Culture et la Comédie Française présentent Le Chat, un roman de Georges Simenon, adapté pour un spectacle radiophonique au studio 104 de la Maison de la Radio.
Un drame à huis clos sur un couple qui ne se parle plus et se fait souffrir mutuellement. Enfermé dans le silence, il ne communique plus que par des bouts de papier. Un roman magistral par le créateur du Commissaire Maigret. Une réalisation de Baptiste Guiton avec la troupe de la Comédie Française.
Mardi 25 février à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio. Réservation maisondelaradio.fr ou 01 56 40 15 16.
Il est 6h57, vous écoutez France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour ce matin, Guillaume, quel rapport entre le Rwanda et la France?
Eh bien aucun. J'ai trouvé dans le Financial Times 2 statistiques sur chacun de ces pays. Première statistique, elle a trait à l'optimisme en Afrique. Comment les Africains voient-ils leur avenir? 90% des Rwandais pensent que leur vie va s'améliorer. Moins de 5% des Rwandais pensent que leur futur leur promet le pire. Et c'est le cas d'un grand nombre de pays d'Afrique, le Rwanda, mais aussi le Nigeria, l'Éthiopie, le Kenya ou bien encore l'Afrique du Sud. Plus de 75% des personnes interrogées dans chacun de ces pays croient au futur. Une forme d'optimisme qui contraste évidemment avec le pessimisme le plus épais qui prévaut en France. Pour vous donner un ordre d'idée, même si le pessimisme français n'est pas mesuré dans ce sondage, tandis qu'au Nigeria, 85% de la population est optimiste pour le futur, en France, seuls 12% de nos compatriotes pensent que la vie des générations futures va s'améliorer. Et encore, lorsque l'on y songe, on se demande qui sont ces 12%, Julie. Alors bien sûr, il n'est pas évident de comprendre comment on peut atteindre un tel écart en matière de pessimisme entre un pays comme le Nigeria, qui est certes une économie en croissance, mais qui se débat avec des questions d'infrastructure, de corruption, de forte pression démographique. Peut-être au Nigeria se dit-on que les choses vont s'améliorer parce qu'elles ne peuvent que s'améliorer. Peut-être aussi que l'optimisme français a du mal à se projeter parce que les Français se croient condamnés au déclin ou à la stagnation. Et ils n'ont pas nécessairement tort. Autre statistique issue du Financial Times, le nombre de générations qu'il faut à une famille à bas revenus en France pour atteindre le revenu moyen. Alors, si on compare avec les pays du Nord, le Danemark, il faut 2 générations à une famille pour atteindre le revenu moyen lorsqu'il s'agit d'une famille pauvre. Aux États-Unis, il faut 5 générations et en France, eh bien, il faut 6 générations à des Français pauvres pour devenir des Français moyens. C'est-à-dire que si vous étiez pauvre sous Louis XVI, vous pouvez espérer avoir un revenu moyen. Sous Emmanuel Macron, en somme, chez nous, les choses s'améliorent, mais lentement.